Leçon 6, semaine du 30 avril au 6 mai. Les racines d'Abraham. Samedi après-midi, verset à mémoriser. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11 au verset 8. Nous voilà arrivés désormais au cœur du livre de la Genèse. Cette partie centrale, Genèse 12 au verset 22, couvre le voyage d'Abraham depuis le premier appel de Dieu, Lech Lecha, va, voir Genèse 12 au verset 1, qui conduit Abraham à quitter son passé pour suivre le deuxième appel de Dieu, Lech Lecha, va, Genèse 22 au verset 2, qui conduit Abraham à quitter son avenir tel qu'il existerait dans son fils. Par conséquent, Abraham se déplace constamment. Il est sans cesse un immigrant et c'est pourquoi on le qualifie aussi d'étranger. Genèse 17 au verset 8. Au cours de son voyage, Abraham est suspendu dans le vide, sans son passé qu'il a perdu et sans son avenir qu'il ne voit pas. Entre ces deux appels qui encadrent son itinéraire de foi, Abraham entend la voix de Dieu qui le rassure. N'aie pas peur. Genèse 15 au verset 1. Ces trois mots de la part de Dieu marquent les trois parties du voyage d'Abraham que nous étudierons aux semaines 6, 7 et 8. Abraham est l'illustration de la foi. Genèse 15 au verset 6 et la Bible hébraïque se souvient de lui comme l'homme de foi. Néhémie 9 verset 7 et 8. Dans le Nouveau Testament, Abraham est l'un des personnages de l'Ancien Testament le plus cité et cette semaine, nous commencerons à voir pourquoi. Dimanche 1er mai, le départ d'Abraham. Lisez Genèse 12 au verset 1 à 9. Pourquoi Dieu a-t-il appelé Abraham à quitter son pays et sa famille? Comment Abraham a-t-il réagi? La dernière fois que Dieu avait parlé à quelqu'un, du moins dans ce que la Bible nous rapporte, c'était avec Noé pour le rassurer après le déluge sur le fait qu'il établirait une alliance avec toute chair. Genèse 9, versets 15 à 17, et qu'aucun autre déluge mondial ne s'abattrait sur la terre. La nouvelle parole de Dieu donnée, maintenant à Abraham, renoue avec cette promesse. Toutes les nations de la terre seront bénies à travers Abraham. La réalisation de cette prophétie commence en laissant derrière le passé. Abraham quitte tout ce qu'il connaissait, sa famille et son pays, et même une partie de lui. L'intensité de ce départ se reflète dans la répétition du mot-clé « va » qui apparaît 7 fois dans ce contexte. Abraham doit partir, quitter son pays, Ur des Chaldéens, c'est-à-dire Babylone, Genèse 11 au verset 31, Ésaïe 13 au verset 19. Cet appel à sortir de Babylone a une longue histoire parmi les prophètes bibliques. Ésaïe 48, verset 20, Apocalypse 18, au verset 4. Le départ d'Abraham concerne également sa famille. Abraham doit laisser son héritage et une bonne partie de ce qu'il a appris et acquis à travers l'hérédité, l'éducation et ses fréquentations. Pourtant, l'appel de Dieu implique encore davantage. L'expression en hébreu « Lech Lecha » va, traduite littéralement signifie « va toi-même » et « va pour toi-même ». Le départ d'Abraham de Babylone concerne plus que son environnement ou même sa famille. L'expression met l'accent sur « lui-même ». C'est « lui-même » qu'Abraham doit quitter, c'est d'une partie de lui-même dont il doit se débarrasser et là-dedans, il y a son passé babylonien. L'objectif de cet abandon est un pays que Dieu lui montrera. Le même langage sera employé dans le contexte du sacrifice d'Isaac, Genèse 22 au verset 2, pour parler du mont Moria, où Isaac sera offert et où le temple de Jérusalem sera bâti, de Chroniques 3 au verset 1. La promesse de Dieu ne se limite pas à une partie physique, mais s'étend au salut d'un homme. Cette idée est réaffirmée dans la promesse de bénédiction de toutes les nations, Genèse 12 au verset 2 et 3. Le verbe « barar », « bénir », apparaît à 5 reprises dans ce passage. Le processus de cette bénédiction universelle opère à travers la descendance qui sera à terme réalisée en Jésus-Christ. Acte 3, au verset 25. Dieu vous appelle peut-être à laisser quelque chose derrière vous. Quelle partie de votre vie devez-vous abandonner pour écouter l'appel de Dieu? Lundi 2 mai, la tentation de l'Égypte. Lisez Genèse 12, versets 10 à 20. Pourquoi Abraham a-t-il quitté la terre promise pour aller en Égypte? De quelle manière le pharaon s'est-il comporté par rapport à Abraham? Ironiquement, Abraham, qui venait d'arriver en terre promise, décida de partir pour l'Égypte car il y eut une famine dans le pays. Genèse 12 au verset 10. Une émigration des gens de Canaan vers l'Égypte en période de famine est bien attestée dans les textes anciens égyptiens. Dans l'enseignement égyptien de Merica Ré II, texte composé pendant la période du Moyen Empire, 2060 à 1700 avant Jésus-Christ, les gens venaient de Canaan sont identifiés comme des misérables asiatiques, Amaou, et décrits comme misérables qui manquent d'eau. Ce peuple n'habite pas en un seul endroit, la nourriture propulse ses jambes. Miriam Lichten, Ancient Egyptian Literature, Volume 1, The Old and Middle Kingdom, Berkeley, Californie, University of California Press, 1973, pages 103 et 104. La tentation de l'Égypte était souvent un problème pour les anciens Israélites. Nombre 14 au verset 3, Jérémie 2 au verset 18. L'Égypte devint ainsi un symbole des humains faisant confiance aux humains plutôt qu'à Dieu. Deux Rois 18 au verset 21, Ésaïe 36 verset 6 et 9. En Égypte où l'on pouvait avoir de l'eau au quotidien, la foi n'était pas nécessaire car la promesse du pays était immédiatement visible. Comparé au pays de famine, l'Égypte semblait un bon endroit où aller, malgré ce que Dieu lui avait dit. La branche qui quitte à présent Canaan tranche avec la branche qui a quitté Ur. Avant, Abraham était décrit comme un homme de foi qui avait quitté Ur en réponse à l'appel de Dieu. À présent, Abraham quitte la terre promise de lui-même, de sa propre volonté. Avant, Abraham comptait sur Dieu. Maintenant, il agit comme un politicien manipulateur et malhonnête qui ne compte que sur lui-même. Durant son séjour en Égypte, Abraham montra qu'il n'était pas exempt de faiblesses et d'imperfections humaines. En craignant d'avouer que Sarah est sa femme, il révèle un manque de confiance en Dieu. Il subit une éclipse de la foi sereine et du noble courage qui apparaît si souvent dans sa vie. Ellen White, Patriarche et prophète, page 108. Ainsi, nous voyons ici à quel point même un grand homme de Dieu peut faire une erreur sans pour autant être abandonné de Dieu. Quand le Nouveau Testament parle d'Abraham comme d'un exemple de salut par grâce, il ne s'agit pas que de cela, la grâce. Car sans la grâce, Abraham, tout comme chacun de nous, n'aurait aucun espoir. Que devrait nous enseigner cette histoire sur combien il est facile, même pour des chrétiens fidèles, de s'éloigner du droit chemin? Pourquoi la désobéissance est-elle toujours un mauvais choix? Mardi 3 mai, Abraham et Lot. Lisez Genèse 13 au verset 1 à 18. Que nous enseigne cette histoire sur l'importance du caractère? Abraham revient à la case départ, comme si ce voyage en Égypte n'était qu'un malheureux détour. L'histoire de Dieu avec Abraham recommence là où elle s'était arrêtée dans son premier voyage en terre promise. Le premier arrêt d'Abraham est Beth-El. Genèse 13, verset 3. Comme lors de son premier voyage dans son pays, Genèse 12, verset 3 à 6. Abraham s'est repenti, il est revenu à lui-même, Abraham, l'homme de foi. Le rétablissement de son lien avec Dieu se voit déjà dans sa relation avec les gens, dans la même manière dont il gère le problème avec Lot, son neveu, concernant l'administration du pays. Pourtant, c'est Abraham lui-même qui propose un accord à l'amiable et qui laisse l'autre choisir en premier. Genèse 13, au verset 9 à 10. Un acte de générosité et de gentillesse indicatif du genre d'homme qu'était Abraham. Le fait que l'autre ait choisi la meilleure part pour lui-même, la plaine bien irriguée, Genèse 13, verset 10 et 11, sans se préoccuper de la méchanceté de ce futur voisin, Genèse 13, verset 13, révèle quelque chose sur sa cupidité et son caractère. L'expression « choisie pour lui » nous rappelle les antédiluviens qui se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6 au verset 2. Par opposition, ce déplacement d'Abraham était un acte de foi. Abraham n'a pas choisi le pays. Il lui a été donné par la grâce de Dieu. Contrairement à Lot, Abraham ne regarde pas le pays sous l'injonction de Dieu. Genèse 13 au verset 14. C'est pourquoi quand Abraham se sépare de Lot, que Dieu lui parle de nouveau, Genèse 13, verset 14. En fait, c'est la première fois que la Bible relate que Dieu parle à Abraham depuis son appel à Ur. Lève les yeux, je te prie, et regarde, depuis le lieu où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Genèse 13, versets 14 et 15. Dieu invite ensuite Abraham à parcourir ce pays dans un acte d'appropriation. Parcours le pays en long et en large, je te le donnerai. Genèse 13, au verset 17. Le Seigneur, cependant, dit clairement que c'est lui, Dieu, qui le donne à Abraham. C'est un don de la grâce, qu'Abraham doit s'approprier par la foi. Une foi qui conduit à l'obéissance, c'est l'œuvre de foi seule qui entraînera tout ce qu'il a promis à Abraham, ici. Genèse 13, versets 14 à 17. Comment apprendre à être gentil et généreux avec les autres, même quand eux ne le sont pas avec nous? Mercredi 4 mai, la coalition de Babel. Lisez Genèse 14, versets 1 à 17. Qu'y a-t-il d'important dans le fait que cette guerre ait lieu juste avant que la terre promise ne soit donnée? Que nous enseigne cette histoire sur Abraham? C'est la première guerre rapportée dans les Écritures, Genèse 14, verset 2. La coalition de quatre armées de Mésopotamie et Perse contre l'autre coalition de cinq armées cananéennes, dont les rois de Sodome et Gomorre, Genèse 14, au verset 8, indique un conflit de grande ampleur, Genèse 14, au verset 9. La raison de cette opération militaire tient au fait que les peuples cananéens s'étaient rebellés contre leurs suzerains babyloniens. Genèse 14, versets 4 et 5. Bien que cette histoire renvoie à un conflit historique précis, la chronologie de cette guerre mondiale, qui intervient juste après que Dieu ait donné la terre promise à Abraham, donne à cet événement une portée spirituelle particulière. L'implication de tant de peuples du pays de Canaan indique que ce qui était en jeu dans ce conflit était la souveraineté sur le pays. Ironiquement, le camp d'Abraham, le seul groupe réellement concerné parce qu'il était le seul véritable propriétaire du pays, est la seule force qui reste en dehors du conflit, du moins au début. La raison de la neutralité d'Abraham est due au fait que pour Abraham, la terre promise ne pouvait se gagner par la force des armes ou la sagesse des stratégies politiques. Le royaume d'Abraham était un don de Dieu. La seule raison pour laquelle Abraham intervient, c'est parce qu'il se soucie du sort de son neveu, Lot, qui a été fait prisonnier au cours des batailles. Genèse 14, versets 12 et 13. Abraham, qui vit en paix au chêne de Mamré, apprend d'un fugitif les nouvelles de la bataille et le malheur qui vient d'attendre son neveu. Exempt de rancœur à son sujet, il sent se réveiller toute son affection pour son parent et prend la résolution de le sauver. Après avoir cherché conseil dans la prière, il se prépare à la guerre. Ellen White, Patriarche et Prophète, page 114. Mais Abraham ne va pas attaquer toute la coalition. Au cours de ce que l'on pourrait appeler une opération commando éclair, en pleine nuit, il n'attaque que le camp où Lot est détenu prisonnier. Lot est sauvé. Ainsi, Ce fidèle homme de Dieu fit également preuve d'un grand courage. Sans doute, son influence dans la région s'accentua et les gens virent le genre d'homme qu'il était et en apprirent davantage sur le Dieu qu'il servait. Quel genre d'influence nos actions ont-elles sur les autres? Quel genre de message sur notre foi envoyons-nous par l'intermédiaire de nos actes? Jeudi 5 mai, la dîme de Melchisédek. Lisez Genèse 4, versets 18 à 24 et Hébreux 7, 1 à 10. Qui était Melchisédek? Pourquoi Abraham a-t-il donné sa dîme à ce prêtre qui venait de nulle part? L'apparition soudaine du mystérieux Melchisédek n'est pas hors de propos. Les rois cananéens remercient Abraham et à son tour ce dernier remercie ce prêtre et révèle sa gratitude en lui rendant sa dîme. Melchisédek vient de la ville de Salem qui signifie paix, message adapté après la tourmente de la guerre. L'élément Tzedek, justice dans le nom de Melchisédek, tranche avec le nom du roi de Sodome, Béra, dans le mal, et celui de Gomorre, Bircha, dans la méchanceté, qui étaient probablement des surnoms pour ceux qu'il représentait. Genèse 14 au verset 2. Melchisédek, après le renversement de la violence et du mal, représenté par les autres rois cananéens. Ce passage contient également la première référence biblique au mot prêtre, Genèse 14 au verset 18. L'association de Melchisédek au Dieu très haut, Genèse 14 au verset 18, qu'Abraham appelle son propre Dieu, Genèse 14 verset 22, indique clairement qu'Abraham le considérait comme un prêtre du Dieu que lui-même servait. Melchisédek ne doit cependant pas être identifié à Christ. Il est le représentant de Dieu parmi le peuple à l'époque. Voir Ellen White, Comments, The SDA Bible Commentary, volume 1, pages 1092 et 1093. Melchisédek officie bien en tant que prêtre. Il sert le pain et le vin, association qui indique souvent l'emploi du jus de raisin fraîchement pressé, et qui apparaît dans le contexte du don de dîme. De plus, il bénit Abraham. Abraham, entre-temps, lui donna la dîme de tout, Genèse 14 au verset 20, en réaction à Dieu le Créateur, le possesseur des cieux et de la terre. Ce titre fait allusion à l'introduction du récit de la création, Genèse 1 au verset 1, où l'expression « le ciel et la terre » signifie la totalité ou tout. En soi, la dîme est comprise comme une expression de gratitude envers le Créateur qui possède tout. Hébreux 7, versets 2 à 6, voire Genèse 28 au verset 2. Paradoxalement, la dîme est comprise par le fidèle, non comme un don envers Dieu, mais comme un don de Dieu, car Dieu nous donne tout à la base. Pourquoi le fait de rendre la dîme est-il indicateur fort de la foi, ainsi qu'un acte puissant pour bâtir la foi? Vendredi 6 mai. Pour aller plus loin, lisez Ellen White, Abraham en Canaan, pages 111 à 124 dans Patriarches et Prophètes. L'Église de Christ doit être une bénédiction et ses membres doivent être bénis en même temps qu'ils en bénissent d'autres. En se choisissant un peuple parmi tous les autres, l'objectif de Dieu était non seulement de les adopter en tant que fils et filles, mais pour qu'à travers eux, ils puissent accorder au monde les bienfaits de l'illumination divine. Quand le Seigneur choisit Abraham, ce n'était pas simplement pour qu'il soit un ami de Dieu, mais aussi l'intermédiaire des privilèges précieux et particuliers que le Seigneur désirait dispenser aux nations. Il devait être une lumière au sein des ténèbres morales environnantes. Quand Dieu bénit ses enfants en leur donnant la lumière et la vérité, ce n'est pas seulement pour qu'ils aient le don de la vie éternelle, mais pour que ceux qui les entourent puissent aussi être éclairés spirituellement. Vous êtes le sel de la terre, et quand Dieu fait de ses enfants le sel, ce n'est pas seulement pour leur propre protection, mais pour qu'ils soient des agents de protection des autres. Brillez-vous comme des pierres vivantes dans le bâtiment de Dieu? Nous n'avons pas la religion authentique à moins qu'elle n'exerce une maîtrise sur nous dans chacune de nos transactions. Nous devons avoir une piété pratique qui imprègne l'œuvre de nos vies. Nous devons avoir la grâce transformatrice de Christ qui agit dans nos cœurs. Nous avons besoin que le moi diminue de beaucoup et que Jésus croisse davantage. Ellen White, Reflecting Christ, page 205. À méditer, au vu de la bénédiction d'Abraham, je te bénirai, tu seras une bénédiction, Genèse 12 au verset 2. Que signifie être béni? Comment, en tant que peuple qui sert le même Dieu qu'Abraham, pouvons-nous être une bénédiction pour les autres? Qui avait-il de mal dans la demi-vérité d'Abraham concernant sa femme sœur? Qu'est-ce qui est pire, mentir ou bien dire un peu de vérité tout en disant techniquement un mensonge? Relisez Genèse 14, versets 21 à 23, la réponse d'Abraham et l'offre du roi Sodome. Pourquoi a-t-il réagi ainsi et quelles leçons importantes pour tirer de cette histoire? Abraham n'avait-il pas toute la légitimité d'accepter ce que le roi lui offrait?